Section 5, speed her up, 4-1.
Ma montre! On m'a volé ma montre!
What's das Kind, Kind war?
Ça va durer combien de temps?
Ma montre en or!
Quand a commencé le temps? Et où finit l'espace?
Als das Kind, Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war.
Et si on arrêtait tout?
Temps de pause.
Quelle heure est-il?
Je n'ai pas de montre.
Anne Mathéus, en compagnie de Marco Martel.
Eh bien voilà, on est deux dans une bulle.
Ravi de vous accueillir dans notre bulle, comme tous les midis sur Musique 3. Bertrand Van Varenberg est aux commandes de cette émission dans laquelle nous avons le plaisir d'accueillir Marco Martella. Bonjour Marco.
Bonjour.
Un historien des jardins. Le jardin, on sent qu'il commence à frémir. Le printemps est bientôt là. Et donc c'est la saison pour vous inviter. Il n'y a pas d'actualité toute chaude, toute fraîche, mais il y a des livres dont nous allons parler, une revue aussi dont vous êtes le directeur, Marco Martel. Vous êtes donc auteur, essayiste, fondateur de la revue Jardin, très belle revue de jardin qui ne ressemble à aucune autre, où il n'y a pas de photo de jardin. C'est aux éditions du Cendre, c'est une revue annuelle. Il y a déjà 5 numéros qui sont parus sur divers thèmes: le génie des lieux, le réenchantement, le temps, l'ombre, le retrait. Ça donne un peu une idée de la philosophie de cette revue. Et puis il y a des ouvrages qui sont parus chez Actes Sud dans la très jolie collection Un endroit où aller. Il y en a deux, en fait, deux petits bijoux qui laissent planer un peu de doute quant à qui est véritablement l'auteur de ces ouvrages. En tout cas, Marco Martella, vous êtes présenté comme traducteur de Le Jardin perdu, de Jorn de Précy, traduit de l'anglais, et puis alors plus fort encore et plus récemment, traduit du serbo-croate, Jardin en temps de guerre, de Théodore Tseric. J'espère que je prononce bien.
Absolument.
Vous êtes un spécialiste du serbo-croate, Marco Martel. Là, ces deux ouvrages qui nous parlent de jardin, mais pas comme on pourrait s'y attendre, ou alors comme une certaine littérature peut le faire aujourd'hui, avec notamment des auteurs comme Gilles Clément, quelqu'un dont on parlera sans doute dans cette émission. C'est donc comme philosophe du jardin que vous vous intéressez au jardin?
Philosophe, c'est peut-être un mot important, peut-être plus important. Moi, je pense que les jardiniers, je me considère comme un jardinier, vous avez dit historien des jardins, c'est vrai, mais à la base, je suis jardinier, doivent toujours faire preuve d'humilité. Alors, j'ai du mal à me qualifier de philosophe. Mais c'est sûr qu'il y a une pensée du jardin, mais une pensée assez humble, en fait. Il n'y a pas de système, il n'y a pas un système de pensée. Mais il y a une philosophie, c'est-à-dire il y a des interrogations et peut-être des questions qui arrivent de temps en temps. Dans la pratique du jardinage, c'est ça qui m'intéresse le plus. Dans la pratique du jardinage et dans la pratique du lieu, c'est-à-dire on peut être aussi simplement visiteur d'un jardin, et la visite du jardin peut être soit une promenade sportive, par exemple, pour respirer, ou effectivement un moment de rencontre avec un lieu, avec la nature qui fait partie du lieu, la nature dans les sens plus vastes, et qui peut faire surgir des émotions, déjà, en premier lieu, et ensuite des pensées, des interrogations, par exemple. Par exemple, la place de l'homme dans la nature, la place de l'homme dans le monde. Je pense que le jardin, dans toutes ses formes, dans les différents pays où l'art du jardin s'est développé dans les siècles, dans les millénaires, chaque jardin ou chaque style de jardin fournissent une réponse à ces genres de questions, ou une image en fait de l'homme dans le monde, dans la nature. Donc, dans ce sens-là, il y a des questions, parfois des réponses, mais en tout cas, c'est effectivement un lieu d'élaboration de la pensée. Et une pensée qui se fait souvent, on n'a pas besoin justement d'être philosophe. C'est des choses qui se font, en fait, naturellement, en quelque sorte.
C'est ça, plutôt peut-être une sagesse du jardinier.
Une sagesse du jardinier. Alors là, vous parlez déjà de Gilles Clément, bien sûr, parce que c'est un très joli livre qu'il a écrit, oui. La sagesse du jardinier, où il y a effectivement des clés assez intéressantes. Si on veut aller au-delà de l'image parfois un peu gentillette du jardinier qui parle avec les plantes, qui est tout content, parce que c'est beaucoup plus que ça. Le jardinage, c'est beaucoup plus qu'un loisir, un simple loisir, et le jardin, c'est beaucoup plus qu'un espace de loisir, d'hobby ou de... Voilà.
C'est une
plus qu'un espace vert. Vous savez, oui. Aujourd'hui, on utilise cette expression que je trouve assez épouvantable, d'espace vert. C'est pas très poétique. Alors que dans les mots jardin, il y a tout. oui. Même dans la sonorité d'ailleurs.
Et on pourra revenir à l'étymologie, on va donc parler de cette relation de l'homme à la nature, de ce refuge aussi qu'est le jardin dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a aussi une réflexion certainement politique derrière cette conception du jardin. Alors vous parlez d'émotion, Marco Martel, là, le jardin on le retrouve dans la musique et c'est toujours de l'émotion. Je vous propose une petite pièce, hommage à vos origines italiennes, j'imagine, vu votre accent. C'est un bois solitaire et ombragé, solitario bosco ombroso. Une petite pièce signée Giuseppe Tartini sur un poème de Paolo Rolli avec au violon Chiara Banchini et à la voix Patrizia Bovi. Un bois solitaire et ombragé pour rentrer dans cet entretien avec Marco Martel, historien des jardins. Donc, comment devient-on historien des jardins, Marco Martel?
Dans mon cas particulier, j'ai suivi une formation, à l'époque c'était un 2SS. Donc aujourd'hui, c'est un Master 2 à l'école d'architecture de Versailles. C'est une sorte de spécialisation dans l'histoire des jardins. Assez intéressant d'ailleurs parce qu'on ne parlait pas que d'histoire. On parlait aussi de techniques de jardins. Comment on gère un jardin ancien, comment on taille, par exemple, comment on plante, les plans de gestion. Enfin, c'était assez intéressant, c'était assez diversifié.
Et donc, on sent dans vos ouvrages une vraie érudition par rapport à cette histoire des jardins. Il y a de véritables différences entre le jardin à l'italienne, le jardin à la française et les jardins anglais. Vers quoi va votre préférence?
C'est difficile. Comme vous l'avez dit, mes origines sont plutôt italiennes. Donc, c'est vrai que... les souvenirs du premier jardin que j'ai vu, c'était des jardins de la Renaissance, par exemple. Je suis né à Rome, j'ai vécu 30 ans à Rome. Mais quand j'étais enfant, mes parents m'amenaient parfois le dimanche visiter la Villa d'Este, par exemple. Donc, plus fort souvenir. Enfin, le premier souvenir de jardin, c'était dans un jardin qui s'appelle Bomarzo, qui se trouve au nord de Rome, dans la province de Viterbo, qui est un jardin de la Renaissance fait par un prince, un des grands princes de la Renaissance, qui a fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jardin, c'est un jardin qui ressemble à aucun autre jardin, même pour l'époque. À l'époque, on faisait en Italie des jardins très symétriques. C'est vraiment le début du jardin architecturé. Et lui, il a fait un jardin où il n'y a aucun ordre apparent, aucune symétrie. Et on rentre dans un bois, c'est dans le fond d'un vallon. On rentre dans un bois comme le bosque ombroso de tout à l'heure. Et on rencontre des statues absolument étonnantes, assez effrayantes même. Donc, le premier souvenir que j'ai, c'est de ce plaisir ce plaisir dans lequel il y avait un peu de peur, parce qu'il y avait des monstres en pierre absolument énormes, des bouches ouvertes, béantes, de têtes de monstres dans lesquelles il fallait rentrer. Et évidemment, c'est un jeu, donc c'est effrayant, mais c'est pas vraiment effrayant, mais c'est un des plaisirs d'ailleurs. C'est une sorte de labyrinthe, on se perd dans ce jardin. Donc c'est resté avec moi. Donc moi, ma préférence, c'est pas tellement avec un style italien, français, anglais ou autre. C'est plutôt avec des jardins qui ont beaucoup de mystère. Bon, ça veut rien dire. Puis après, il faut. Mais c'est ce que je cherche en général dans un jardin. C'est quelque chose qui m'attire dans le jardin. Ce côté un peu labyrinthique, justement.
Et dans l'histoire des jardins, le jardin dans l'Antiquité est un lieu habité véritablement oui. par des dieux, par des
oui.
présences diverses, des nymphes, oui. etc.
Absolument, dans les jardins, c'est intéressant. Moi, c'est vraiment un des sujets de prédilection pour moi, parce que c'est vrai qu'on a un peu perdu cette dimension du sacré. Qui n'est pas forcément lié à une religion constituée proprement dite. Hein. Mais par exemple, pour les Égyptiens, pour faire juste un exemple, mais il y en a vraiment beaucoup plus, les arbres de jardin, des temples, avaient vraiment une fonction de trait d'union entre l'homme et le divin, entre l'homme et l'au-delà, le présent et l'au-delà. Il y avait par exemple des arbres qui étaient consacrés à des dieux qui guidaient les âmes des défunts après la mort. Et ça se passait dans les jardins, donc cette espèce voilà, on allait prier les dieux qui accompagnaient les âmes des défunts. Donc c'est très fort, c'est très chargé. Donc c'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, les jardins c'est beaucoup plus qu'un espace de loisirs. C'est ça aussi, et je pense qu'aujourd'hui, on ne croit plus au génie des lieux, aux petits esprits qui se cachent. Mais il y a chez nous, quand on jardine, ou quand on se promène dans un jardin, en tout cas dans un jardin qui nous parle, qui nous appelle, on retrouve un peu cette espèce d'animisme, un peu enfantin aussi quand même. On a envie d'y croire en tout cas, et parfois on y croit vraiment. On sent qu'il y a des choses qui se passent et qui vont au-delà de l'expérience commune, en fait, de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc la dimension magique, spirituelle aussi de jardin, oui. et comment on la vit aujourd'hui.
Il y a du surnaturel dans la nature et dans les jardins. Marco Martel, alors l'Italie, votre découverte des jardins, et puis vous venez en France, vous l'avez dit, vous avez étudié en France, et je vous propose de partir avec quelques sons au jardin des Tuileries. C'est un jardin auquel vous êtes intéressé, qui est sans doute très différent des jardins italiens. Vous avez participé à un court-métrage en écrivant le texte pour ce court-métrage. On en écoute un petit extrait.
Tous les matins, je viens ici, aux Tuileries. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais quoi répondre. Ce jardin n'a rien pour me plaire. Et pourtant, tous les matins, il suffit que je voie de loin les grilles du jardin, tandis que je marche le long de la rue de Rivoli pour me sentir rassuré. Puis, dès que le portillon se referme derrière moi, je suis à nouveau quelque part, dans un vrai lieu.
Et voilà, bref extrait, c'est un peu un trailer, hein, une démo de ce court-métrage signé Hervé Bernard. C'est quelqu'un qui a beaucoup photographié les statues et le jardin des Tuileries et qui vous a demandé d'écrire le texte pour ce court-métrage qui vient d'être donné en avant-première au Halles à Paris. C'était le 26 février dernier, je crois.
C'est ça, oui.
Et donc, c'est une succession de photographies sur lesquelles vous avez créé un récit.
C'est plus qu'une succession de photos, en fait, parce que Hervé Bernard a photographié ce jardin dans 30 ans. Mais il y a un travail, je suis incapable d'en parler en fait parce que c'est pas mon domaine, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau des images, il y a du mouvement dans les images qui est assez intéressant. Pour moi c'est assez magique, hein. Je sais pas du tout comment il arrive à faire ça. Il y a des choses qui se passent. Donc il y a en même temps, on voit bien que c'est des images, c'est des photos, je veux dire. C'est des séquences. Et puis vous avez entendu, il y a de la musique, il y a des bruits, il y a des sons, il y a le texte. Donc
que vous lisez vous-même.
Non.
Ah, c'est pas
vous. Non, ça c'est un acteur.
D'accord.
C'est un acteur serbe. Non, bosniaque, pardon, excusez-moi, je crois. Je sais plus, enfin, de cette région du monde. Parce que l'esprit, donc l'idée, c'est quelqu'un qui vit à Paris, un étranger, donc on comprend vaguement qu'il a un accent, une origine serbe, serbo-croate, justement. Et il est tout seul aux Tuileries, il vit un peu loin de son pays, et il trouve quelque chose dans ce jardin des Tuileries qui est un jardin que vous connaissez sans doute, très fréquenté, c'est je ne sais pas combien de gens qui y passent tous les jours, très public donc.
Mais c'est pas ce qu'il y a de plus poétique.
Comment, pardon ?
C'est pas ce qu'il y a de plus poétique a priori.
C'était ça. Moi, je les connais bien. Je les connais bien parce que j'ai travaillé comme jardinier aux Tuileries il y a une dizaine d'années pendant que je faisais mes études, d'ailleurs.
Ah, comme Théodore Tseritz.
Exactement. Oui. C'est pour ça que je connais le local de jardinier, comment il mange, en somme. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. Et donc, je connais ce jardin de l'intérieur, si vous voulez. Et c'est vrai qu'en fait, en réalité, même un jardin aussi public, aussi qui correspond, c'est pas du tout le jardin de Beaumarchais dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, il y a à chaque fois dans un jardin, je pense dans tous les jardins, quelque chose. En fait, quand on regarde bien, quand on regarde là où en général on n'attire pas forcément notre regard parce qu'il n'y a pas de panneaux, de flèches, et on voit qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a de la poésie, qu'il y a de la magie, qu'il y a du mystère. Et donc c'était un peu ça. Et plus que ça, dans le cas justement du personnage qui parle dans ce court-métrage d'Hervé Bernard, il y a plus que ça. Il y a un confort, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui apaise, qui soigne en quelque sorte les blessures existentielles, je sais pas comment on l'a, ou les blessures de l'histoire, parce qu'on imagine que c'est quelqu'un qui a laissé la guerre derrière lui. Justement, un peu comme Todor Seric.
Voilà, cet auteur que vous avez traduit du serbo-croate pour Actes Sud, c'est donc celui qui est paru récemment, Jardin en temps de guerre. Nous allons y venir, Marco Martel. Alors, on parlait de photographie avec Hervé Bernard, qui a photographié pendant 30 ans ce parc des Tuileries. À propos de photographie, il y a là un appareil photo. Il est pour vous. Et du moins, le temps de cette émission, c'est un Polaroid. Et donc, l'idée, c'est que vous fassiez une photo durant l'émission, peut-être pendant la plage musicale que je vous propose maintenant. Alors, c'est un choix que je vous propose. Est-ce que vous préférez écouter une anamorphose basée sur des jeux d'eau ou alors un jardin clos? Il y a de l'eau aussi, c'est dans la nymphée.
Ah, le jardin clos, peut-être. Ah, oui, non, sans peut-être, sans doute. Même.
Dans la nymphée, le jardin clos.
Sans ton âme qu'elle est là, comme autrefois divine et blanche. Sur ce bord repose ses mains, sa tête est entre ses jasmins. Là, ses pieds effleurent les branches, elle sommeille en ses rameaux, ses lèvres et ses yeux sont clos, et sa bouche à peine respire. Parfois, la nuit un éclair, elle apparaît, les yeux ouverts, il éclaire dans ses yeux ce mireux, un bref éblouissement bleu, la découvrant ses longs cheveux, elle s'éveille, elle se lève.
Un extrait du Jardin clos, c'est un cycle de mélodies de Gabriel Fauré sur des poèmes d'un auteur belge, Charles Van Lerberg, François Leroux et Jeff Cohen. Donc une mélodie française pour évoquer le jardin à l'occasion de cette rencontre avec Marco Martel, auteur de deux livres dont nous allons parler maintenant. Il y a Le Jardin perdu qui est paru en 2011 chez Actes Sud, et puis à nouveau chez Actes Sud, Les Jardins en temps de guerre, traducteur donc de Jorn de Précy dans le premier cas et de Théodore Tseritch dans le second.
Temps de pause.
It's what I should always have done. I shouldn't have become involved in cinema. That's for fools. Gardening is central because, I mean, gardening, you know, one is entering into another time, into eternals and returns and cycles. Those are the resurrection cycles in my life.
La voix de quelqu'un que vous avez peut-être reconnu, Marco Martel. Là, il s'agit de Derek Jarman. Derek Jarman, qui était un cinéaste expérimental avec des œuvres qu'on n'a pas beaucoup vues, un peu du cinéma underground, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Derek Jarman qui a réalisé un magnifique jardin, très modeste, mais d'une grande poésie. C'est dans le Dungeness, donc non loin de Douvres, sur la côte. Et ce jardin, il est présent dans votre ouvrage « Jardin en temps de guerre », donc ouvrage de Théodore Tseritch traduit par vous, et vous ouvrez d'ailleurs ce recueil de rencontres avec des jardins, des jardiniers, sur ce jardin de Derek Jarman que vous visitez, ou que Théodore Tseritch visite. C'est lui qu'on a entendu dire ici, effectivement, qu'il aurait mieux fallu qu'il ne fasse pas de cinéma, mais qu'il se consacre au jardin, parce que pour lui, c'est un temps particulier qu'il vit à travers le jardinage et une manière de retrouver un cycle naturel et d'atteindre à l'éternité. Il faut savoir que Derek Jarman était malade, il était atteint du sida, et donc il a créé ce jardin à la fin de sa vie comme... Un lien, effectivement, avec le futur qui, pour lui, était pas très prometteur. Alors, Marco Martel, le fait d'ouvrir ce recueil sur ce jardin de Derek Jarman...
C'est la question du temps, en fait, que vous évoquez là, le temps au jardin. Et la manière dont Derek Jarman en parle, et surtout la manière dont il traduit ce besoin de s'inscrire dans un temps différent... à travers le jardinage. C'est ce qu'il fait justement donc dans le jardin dans ce petit jardin très petit en fait. Hein, c'est vraiment un carré autour d'une maison, une petite maison en bois très simple, pas loin de la côte. Oui, c'est un choix parce que c'est je pense que c'est un des jardins les plus intéressants, les plus impressionnants que j'ai vu ces derniers temps. Il y a aussi des textes merveilleux que Derek Jarman a écrit par rapport à ces lieux, par rapport au jardinage, et par rapport justement à la question du temps qui revient sans arrêt. Parce qu'il savait qu'il avait très peu de temps à vivre, et il appelle ça le jardin de mon sursis, par exemple, ou le jardin... Enfin bref, c'est vraiment très intéressant, c'est un livre qui existe, et qui s'appelle, ce qui a été traduit en français, qui s'appelle le jardin, Un dernier jardin. Et la question du temps est très intéressante. C'est vrai qu'il y a cette idée du temps cyclique, parce que donc c'est une sorte de dépassement de la mort, ou en tout cas c'est une manière de considérer la mort à l'intérieur de quelque chose de plus vaste, des cycles de la nature. Donc le travail avec la nature, le jardinage, vous met, que vous le veuillez ou non, dans ce temps-là. Il raconte par exemple comment les plantes tendent à disparaître en été, on dirait qu'elles sont mortes, et puis etc. Ça c'est une expérience commune. Il y a un petit passage absolument merveilleux et que Théodore Tseritch reprend dans son texte sur Jarman. Il raconte par exemple Jarman qu'il voit dans son jardin au mois de janvier une petite bourrache, vous savez la bourrache, c'est cette petite plante aromatique qui fait des fleurs bleues, qui a fait une fleur complètement hors saison. Ça arrive, les plantes, parfois un coup de chaleur, etc. Donc il s'inquiète un peu pour la bourrache, qui évidemment, dès qu'il commence à faire froid, se flétrit. Et il y a cette espèce de sentiment de camaraderie entre le jardinier et cette plante, qui lutte tous les deux contre la mort. Et c'est très beau, il y a cette petite phrase qu'il écrit... I borage bring courage. Moi, la bourrache donne du courage. Et je trouve ça absolument merveilleux, cette espèce de ce lien profond, de fraternité presque entre le jardinier et ses plantes. Le jardinier soigne les plantes et les plantes lui apportent quelque chose en échange. Du courage, en l'occurrence, dans le cas de Derek Jarman et de son jardin.
Derek Jarman, donc, qui ouvre cette série de petits récits de Théodore Tcheritz. Et puis, on rencontre d'autres personnages, tous plus étonnants les uns que les autres. Alors, certains existent peut-être, d'autres sont peut-être venus de l'imaginaire. Anatolio Smith, par exemple, une espèce de drôle d'ermite qui évoque à nouveau l'idée de la spiritualité au travers du jardin. Il y a différentes thématiques qu'on sent émerger. La thématique de la sensualité et de l'ombre de l'endroit caché dans le Monte Caprino, ce jardin à Rome, cette colline où il y a des rencontres qui se déroulent un peu illicites sans doute. Le jardin de Samuel Beckett qui existe véritablement. C'est pas le parc qu'il y a dans le 13e arrondissement à Paris, mais bien un petit jardin. Et ça, on le sait peu. Il a jardiné, Samuel Beckett.
Il a jardiné et je suis allé voir ce jardin qui est assez complètement anonyme. Enfin, il y a une plaque qui dit Beckett a vécu ici, mais sinon, enfin, on n'y va pas. C'est en Seine-et-Marne. C'est la région de la Brie, donc une région pas touristique, qui n'est pas d'une beauté époustouflante. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que Beckett a choisi cet endroit, aussi parce qu'il y avait un ami qui habitait pas loin, un ami peintre, mais aussi parce que c'est un endroit tranquille. Donc il avait son petit pavillon de banlieue, c'était la banlieue d'un petit village, en quelque sorte, complètement anonyme, vraiment une maison comme les dessins des enfants, comme ça, avec un carré tout autour, dans lequel il y a quatre ou cinq arbres, comme ça. Donc son charme, en quelque sorte. Mais évidemment, ça a du charme, mais surtout, il suffit de penser que Beckett a vécu dans cette maison et que c'était son refuge. Et là aussi, en quelque sorte, il y a quelque chose qui se passe entre Beckett et les plantes. Ils sentent une espèce là aussi de fraternité avec les plantes qui s'accrochent à la vie, malgré tout, comme les personnages de ces pièces qui veulent vivre.
Et ce petit texte, d'ailleurs, est intitulé « Le jardin de Godot ». Oui. C'est pas par hasard. Et puis, on découvre par contre alors Paines Hill et Charles Hamilton qui ont véritablement existé au XVIIIe siècle. Et là, à nouveau, c'est l'étonnement. Il y a un ermite dans le jardin. La figure de l'ermite, c'est aussi une figure qui revient dans ces textes, Marco Martel, parce que John de Précy, avec son jardin perdu, c'était aussi un ermite, finalement, dans un jardin tout à fait insolite par rapport à l'époque. Il a écrit son essai en 1912. Alors d'autres jardins, et un très très beau jardin pour terminer ce recueil Jardin en temps de guerre, qui est d'une modestie incroyable, qui est complètement secret, qui n'est pas destiné à être vu par personne, qui est entre quatre murs, à Grasse en Autriche. Vous avez vraiment visité tous ces jardins que Théodore Tcheritz a donc visité?
Je crois que ce jardin-là n'existe pas.
D'accord.
En revanche, cette idée du petit jardin dans lequel il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de terre. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est planter par des plantes d'ombre, et notamment des fougères, parce que c'est le cas du jardin dont vous parlez. C'est ce que je fais moi, parce que j'ai une petite maison à la campagne, où malheureusement il n'y a pas de jardin. J'ai juste une petite cour dans laquelle je continue à planter des fougères qui se ressèment, qui peu à peu, j'espère, vont devenir comme les jardins dont parle Théodore Tcheritz, c'est-à-dire une sorte de jungle, artificielle, mais bon, qui a l'air de bordante, une espèce de concentré de vie dans un espace réduit qui n'est pas censé, justement, qui n'est pas fait pour ça, et dans laquelle la vie, en principe, comme c'est du béton, n'est pas la favorisée, mais voilà, il y a un chemin que la vie trouve quand même, le végétal.
Et donc cette idée de la contrainte et de l'acte de résistance du jardin par rapport au béton, ça c'est aussi une idée qui vous tient fort à cœur.
Oui, par rapport au béton, par rapport à tout ce qui, comme le béton, ne semble pas très favorable à la vie. Tous les problèmes sociaux, les grosses crises qu'on vit en ce moment, qui semblent destinées à nous enlever tout ce qui peut rester d'espoir, ou l'histoire elle-même, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on connaît depuis toujours dans l'humanité, enfin c'est pas nouveau non plus. Les jardins, c'est un peu ça, ce que découvre Théodore Tcheritz pendant ces années, qui passe en Europe après avoir quitté Sarajevo pendant la guerre, donc avec la Serbie. Le jardin s'offre comme un lieu de refuge, en fait, par rapport à l'histoire. C'est une sorte de fuite, sans doute romantique, parce que c'est un grand rêve romantique, le rêve de la fuite de l'histoire. Le jardin s'offre comme un lieu privilégié pour ça. un lieu dans lequel on peut tenter autre chose. C'est peut-être c'est un peu pathétique, bien sûr, quand on pense au jardin, un petit jardin, pourquoi pas une petite cour remplie de fougères, d'un côté, de l'autre côté, l'histoire, et toute la puissance de destruction qu'on voit à l'œuvre dans l'histoire.
Ce sont des graines d'utopie ?
Des graines d'utopie, peut-être, oui, oui, bien sûr. En tout cas, des actes de résistance dont on a besoin et qui s'offrent aussi pour les autres comme des refuges. Et c'est ce que découvre justement Théodore Seyrich. Pendant qu'il se promène en Europe, en tant qu'exilé, ou ses années de vagabondage, et il trouve dans les jardins des moments où il peut un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les Tuileries, des lieux d'apaisement, des lieux qui remettent du bonheur, pourquoi pas, là où tout semblait être fait contre. Le bonheur, le bien-être.
Théodore Tcheritz, qui aujourd'hui se consacre à sa dernière œuvre, qui est Son jardin. Vous avez réussi tout de même à le convaincre à réaliser ce recueil. Et puis, il y a aussi quelques-uns de ses textes qui sont publiés dans votre revue Jardin. Ouais. Donc voilà, un jeu de pistes un peu entre ces ouvrages que vous avez traduits et puis cette revue que vous dirigez et dans laquelle vous mettez la main ici et là, c'est évident. Et puis j'ai envie de vous demander, donc vous, votre jardin, c'est ce petit jardin de fougères entre quatre murs? Vous avez un autre grand jardin où vous pouvez faire du jardin en mouvement?
En fait, j'ai un autre grand jardin. C'est dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, et c'est grand. Alors, du coup, c'est vraiment le contraire exact de la petite cour de fougères dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il fait 2,5 hectares. Il est planté d'oliviers centenaires, très beaux, très grands, de troncs nueux, etc. Et je fais de l'huile, d'ailleurs. Et c'est un jardin sec, c'est un jardin assez difficile quand même, parce qu'il ne pleut pas là-bas. Là aussi, c'est un peu, en quelque sorte, un jardin de résistance, parce que les plantes doivent lutter pendant l'été contre la sécheresse. Et c'est assez intéressant de voir de quelle manière les plantes s'adaptent et résistent, et de quelle manière le jardinier doit pouvoir accompagner. Vous savez, on parle de plus en plus maintenant de jardinage raisonnable. Une manière d'être raisonnable dans le jardin, c'est justement de suivre le jardin. Et donc là, il s'agit de suivre les jardins dans cette dimension justement de résistance à la sécheresse, planter des plantes adaptées, ne pas arroser, ne pas mettre de l'eau, mais aller vraiment dans le sens de la nature, en quelque sorte.
Je vous propose une plongée musicale dans un jardin de paradis. C'est un jardin imaginé par Olivier Messiaen.
Thank you.
Olivier Messiaen, grand amoureux de la nature, des oiseaux, mais aussi de tout leur univers, de tout leur biotope. Olivier Messiaen, ici un extrait de la Tourangali, la symphonie. C'est le jardin du sommeil, d'amour, à nouveau plein de poésie et de sentiments. Alors on a parlé de jardin comme lieu refuge, et c'est le cas donc pour Théodore Tcheritz, qui a cherché quelque part un refuge par rapport à la guerre. Dans le cas de Jorn de Précy, c'est un peu différent. Il va créer vraiment un lieu de résistance, hein, on y revient, avec un jardin en Angleterre. Il est d'origine islandaise aussi, si j'ai bien compris. Mmh. Et donc, il va créer un jardin qui est un jardin sauvage, en fait. Et lui, quand on le lit, c'est assez troublant, parce qu'on a l'impression de lire effectivement Gilles Clément. Il est comme un précurseur de ce jardin en mouvement, de ce jardin planétaire, de ce tiers paysage dont parle Gilles Clément. Peut-être résumer cette manière de voir le jardin de Jorn de Précy, qui est tellement en avance sur son temps. Marco Martel.
Oui, il y a le jardin sauvage, bien sûr. Il y a des pratiques aujourd'hui qui commencent à se répandre, le jardin naturel, le jardin écologique, etc. etc. Donc, mais tout ça, ça existait déjà au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Un des amis de Jorn de Précy, le jardinier William Robinson, avait écrit un jardin qui s'appelait The Wild Garden, le jardin sauvage, en 1870, dans lequel il disait déjà un peu ce que dit Gilles Clément. Par exemple, si vous avez une prairie, au lieu de la tondeuse, enfin une pelouse, plutôt que de passer la tondeuse toutes les semaines au printemps, l'été, laissez les plantes sauvages, les fleurs sauvages pousser, et là vous aurez des surprises en permanence, parce que le jardin change sans cesse son visage. Donc on est déjà dans l'idée du jardin en mouvement, c'est-à-dire pas une image figée pour faire court à la Versailles, hein, c'est-à-dire un jardin avec des formes parfaitement maîtrisées et qui se veulent éternelles. C'est exactement à l'opposé, c'est un jardin qui est en métamorphose permanente, donc qui est du côté de la nature, qui accepte ou qui intègre le principe du mouvement constant qu'il y a dans la nature, du changement constant.
Et donc le jardinier accompagne ce mouvement.
Exactement.
Il modère certaines poussées.
Il modère. Moi, je le vois un peu comme un directeur d'orchestre, vous voyez, qui dirige, qui contrôle en quelque sorte, mais tout en laissant, voilà, la nature, les plantes, mais aussi l'eau, les animaux, etc., faire le travail. Donc il dirige un peu, bien sûr, le jardinier est là quelque part, mais c'est un travail artistique dans ce sens-là. Et Jorn de Précy, effectivement, c'est ce qu'il faisait déjà à l'époque. Et en plus, chez lui, il y avait, et ça c'était assez précoce quand même, une vision presque politique du jardin comme espace justement de résistance par rapport à des pratiques qui sont les pratiques de la modernité. Le matérialisme, la course au profit, etc. etc. L'absence d'une vision poétique du monde. Pour lui, le jardin, donc, c'est presque un outil de révolte par rapport à la modernité qui avançait de plus en plus. En fait, dans l'Angleterre du 19e siècle, il y avait déjà eu la révolution industrielle. Donc, on voyait déjà, c'était assez évident, ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, bien sûr, il était précurseur, mais il y avait déjà des éléments qui lui permettait une analyse qui reste effectivement actuelle.
Je vous propose d'ailleurs de lire un petit extrait du Jardin perdu de Jorn de Précy, où il est question effectivement de cette modernité qui gagne et aussi du besoin de spiritualité qui se fait sentir. Alors il dit, Jorn de Précy, « Je ne suis pas philosophe, mais je sais au moins ceci. Dans notre temps trop imbu de lui-même et de ses conquêtes, dans notre société où chaque activité semble destinée à créer de la richesse, à satisfaire des désirs presque toujours superflus, nous avons oublié un besoin, pourtant aussi essentiel que manger ou boire, habiter un monde pourvu de sens. Je parle bien sûr de notre besoin de spiritualité. Oh, j'en suis conscient, ce mot désuet éveille la suspicion chez les fervents de la modernité. Il évoque des images ténébreuses de cathédrales gothiques, des tribunaux de l'Inquisition, de vieux bigots au visage renfrogné. On l'associe immanquablement à l'idéal romantique le plus rétrograde, celui du retour vers un passé de superstition, d'abus et de violence. Dans mon esprit, il évoque plutôt l'étonnement que suscite la magie du monde et des images de jardins chargées d'une beauté bienfaisante à laquelle un nombre de plus en plus réduit de personnes dans notre société démocratique ont accès. » Et puis, Jorn de Précy lui aussi fustige les espaces verts et ces espaces de loisirs qui n'ont finalement rien à voir avec ces traits d'union que sont les jardins en mouvement entre l'homme et la nature. Marco Martel, encore un choix musical, si vous le voulez bien. Je vous repropose Mon Anamorphose avec ses jeux d'eau, qui est signé à la fois par un compositeur français et un compositeur italien. Il y a là un peu une énigme aussi, comme il y a de l'énigme dans votre statut d'auteur. Et puis, comme alternative, un air de cour de Michel Lambert, Le repos, l'ombre, le silence. Choix difficile. Allez-y, lancez-vous.
L'ombre, j'aime bien.
Alors, l'air de cour de Michel Lambert, donc le repos, l'ombre et le silence. un air de cour pour deux voix de Michel Lambert, le repos, l'ombre, le silence, des thématiques qui vous inspirent. Marco Martel, là ici, c'était Les Arts Florissants avec William Christie. William Christie, vous le connaissez, c'est un grand amoureux des jardins. Il a lui-même un très beau jardin, je crois.
Il y a un jardin qu'il a composé lui-même. Et je pense bien, je crois qu'il a composé comme, presque comme une partition musicale, et en s'inspirant de la musique baroque, qui est sa spécialité. Et il y a effectivement une partie française, une partie plus italienne, des petites villas de Florence qu'il avait inspirées. Je l'ai visité il y a très longtemps, en fait. Je l'avais trouvé assez intéressant. Après, il faudrait lui demander effectivement quel est le lien entre la musique et la composition du jardin, parce qu'il y en a un.
Il y en a certainement un. Ouais. Voilà, William Christie, clin d'œil à ce grand amoureux des jardins dans cette émission Temps de pause.
Temps de pause.
Temps de pause, c'est une émission qui aime la photographie. Vous avez pris votre Polaroid, Marco Martel, là, que vous allez signer tout à l'heure et qu'on mettra sur notre page Facebook. Et puis, c'est le moment de choisir la photographie du jour. Deux photographies sélectionnées par Fabrice Cada. Vous en avez choisi une. Et on ne s'étonnera pas qu'il y ait un peu de nature dans cette photographie choisie à dessin. Vous avez fait votre choix, donc.
Oui, donc cette photo dans laquelle on voit quelque chose qui pourrait en fait se présenter comme un jardin à première vue. On voit effectivement du vert, de la végétation. C'est un espace situé, coincé presque entre deux bâtiments, un peu délabré les bâtiments. Donc c'est probablement un quartier, j'imagine, une banlieue délaissée. Il y a quelques arbres entre les deux maisons et surtout une sorte de sous-bois, on pourrait presque dire, en fait, en réalité, de plantes sauvages, des adventices. Et je crois qu'on appelle ça, je crois, de délaissé de Wari. Alors, Gilles Clément, on appelle ça plutôt le tiers paysage, vous en parliez tout à l'heure, donc c'est beaucoup plus noble. Mais dans les deux cas, moi j'aime bien l'idée du délaissé de Wari, même si c'est un terme un peu d'aménagement du territoire. Mais j'aime bien l'idée du délaissé, parce qu'effectivement, cette image qui pourrait inspirer une certaine tristesse, parce qu'on en voit un endroit... Voilà, donc personne ne s'occupe, il n'y a pas de jardinier, il n'y a personne qui
c'est donne négligé.
Oui. Personne qui donne un sens, qui ferait apparaître une beauté. Mais en même temps, c'est évident, un sentiment de liberté, puisqu'on voit bien que cette nature qui déborde librement, elle est en train de sortir du jardin, elle a déjà commencé à envahir le trottoir. Il y a des plantes qui poussent entre les dalles de foncées du trottoir. Donc, personnellement, j'aime bien ça. Donc, je suis spontanément attiré en général donc, par ces genres de lieux. Je trouve que, donc, on parlait de l'ombre tout à l'heure, ce sont des endroits à l'ombre, souvent dans les sens réels, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais aussi dans les sens, c'est des endroits oubliés, donc délaissés. Et là, il y a un potentiel de vie, du coup.
Marco Martel, alors vous avez choisi une photo de Daniel Traube, qui est un photographe et cinéaste basé à Brooklyn et qui documente le quartier nord en particulier de Brooklyn. Et c'est un quartier assez pauvre, effectivement, où les choses sont en assez mauvais état, avec des habitations en ruine, etc. Et il y a effectivement cette nature qui reprend ses droits petit à petit, ici, dans ce terrain à l'abandon. Une photographie qui fait rêver, effectivement, à cette nature libre. Et c'est aussi ça, le jardin, c'est un signe de liberté. C'est ce qui transparaît dans les ouvrages que vous publiez, je le rappelle, aux éditions Actes Sud. Alors, il y a Yorn de Précy, Le Jardin perdu, qui est paru en 2011. Plus récemment, c'était en automne dernier, Jardin en temps de guerre de Théodore Tcherich. Et voilà, le premier a remporté de très nombreux prix. L'éditeur nous fait savoir à la fin de l'ouvrage, effectivement, qu'on se demande pourquoi cet essai, écrit en 1912, était si peu connu jusqu'ici et que, par contre, son traducteur, fin connaisseur de l'art des jardins anglais du 19e, lui, le connaissait et même peut-être qu'il en serait le véritable auteur. Le point d'interrogation reste entier. Il suffit de se faire soi-même une idée en allons lire ces livres. Je rappelle que vous êtes également le directeur de publication de la revue Jardin au pluriel. C'est aux éditions du Centre du Cendre, le Cendre comme le poisson, c'est ça ?
Le poisson, oui.
Et c'est donc le 5e numéro qui est déjà sorti et le 6e qui sortira bientôt. Marco en Martel, mai. En mai. Donc on l'attend avec impatience. Et puis je signale que vous serez tout à l'heure à 18h30 à la librairie Pax à Liège pour évoquer vos différents ouvrages. Et puis Gilles Clément lui sera à Tournai pour une conférence à l'université. Merci beaucoup Marco Martella. Est-ce qu'on passe brièvement votre signature sonore ? Oui, elle est brève. Cet extrait d'un film en deux mots ?
Un film qui s'appelle Sangue Vivo. C'est justement, je vous ai parlé des Pouilles, de la région où j'ai mon jardin dans les oliviers. Et ce que vous allez passer, c'est le vent à travers les frondaisons des oliviers.
Et une tarentelle également. Merci Marco Martella.
Merci à vous.